Alviarin, je veux que ces hommes soient anéantis. »
Inutile de préciser à qui la chair d'Amerlin faisait allusion. La moitié des sœurs, au moins, parlaient exclusivement de ces types et de leurs tours noirs. Et l'autre moitié chuchotait à leur sujet dans les coins sombres.
« Nous avons reçu des rapports inquiétants, mère. »
Alviarin feuilleta de nouveau sa liasse, seulement pour se donner une contenance, estima Elaïda. D'ailleurs, elle n'en sortit pas de nouvelles feuilles. Si presque rien ne pouvait troubler longtemps cette femme, la décharge à ordures qu'on osait appeler la tour noire en était sûrement capable.
D'autres rumeurs? Tu crois vraiment que des milliers d'hommes se précipitent à Kaemlyn en réponse à cette obscène amnistie?
Une des pires exactions d'Altor, mais rien de bien dangereux en réalité. Un tas d'ordures, simplement, qu'il convenait de déblayer avant le couronnement d'Elaine.
Bien sûr que je n'y crois pas, mère, mais Tovain doit se charger de cette opération, qui est du ressort des Sœurs Rouges.
Quand Elaïda l'avait rappelé, Tovain Ghazal vivait depuis près de 15 ans loin de la tour. Les deux autres représentantes rouges qui avaient démissionné en même temps qu'elle, prenant volontairement leur retraite, étaient aujourd'hui des femmes aux yeux hantés. Contrairement à Liren et à Tsutama, Tovain était sortie plus forte de son exil.
Elle doit avoir avec elle une 50aine de sœurs.
À la tour noire, il ne pouvait pas y avoir plus de 2 ou 3 hommes capables de canaliser. Elaïda en aurait mis sa main au feu. 50 sœurs les submergeraient sans difficulté. Mais il risquait d'y avoir d'autres adversaires. Les parasites qui traînent d'habitude dans les camps, plus une foule de crétins nourrissant des ambitions futiles et de vains espoirs.
Mais elle devra se faire accompagner par 200 gardes. Es-tu sûr que c'est avisé? Les rumeurs qui parlent de milliers d'hommes sont absurdes, c'est vrai. Mais un agent de la Javert installé à Kaemlyn assure qu'il y a plus de 400 hommes à la tour noire. Un espion futé. Il a compté les chariots de ravitaillement qui sortent de la ville pour allier cette tour. Et comme tu le sais sûrement, on dit que Mazrim Taïm est dans le coup.
Elaïda réussit de justesse à ne pas tressaillir. Elle avait interdit qu'on prononce le nom de Taïm devant elle. Et voilà qu'elle n'osait pas, oui, n'osait pas, infliger à Alviarin la pénitence prévue en cas de transgression. Que c'était amer. D'autant plus que la gardienne la regardait crânement dans les yeux et qu'elle n'avait même pas cru bon d'ajouter à sa tirade un « mère » faussement respectueux. Quelle insolence! Se permettre de demander si Elaïda était sûre de ce qu'elle disait. Enfin, elle était la chair d'Amerlin. Pas une égale parmi des égales, mais la dirigeante suprême. Elaïda ouvrit le plus grand des 3 coffrets, révélant plusieurs figurines d'ivoire reposant sur un carré de velours vert. Très souvent, contempler et toucher sa collection la détendait. Mais comme tricoter, une activité qu'elle appréciait, c'était une façon de remettre les gens à leur place, en faisant mine de s'intéresser davantage à ses trésors qu'à ce qu'ils avaient à dire. Du bout du doigt, Elaïda suivit les contours d'un magnifique félin miniature. Puis elle fit de même avec une femme somptueusement vêtue, qui portait sur l'épaule un étrange petit animal qui ressemblait à un homme entièrement couvert de poils. Une fantaisie du sculpteur, à n'en pas douter. Pour finir, elle s'empara d'un poisson si parfaitement réalisé qu'il semblait presque vivant, malgré l'aspect jaunâtre de l'ivoire.
400 vauriens, Alviarin.
La gardienne ayant fait la moue, presque imperceptiblement, mais chaque petite victoire valait une fortune, Elaïda se sentit rassérénée.
S'ils sont autant, seule une idiote penserait que plus de 2 ou 3 de ces voyous savent canaliser le pouvoir. En 10 ans, nous avons seulement découvert 6 hommes ayant cette capacité, et lors des 20 dernières années, 24 en tout. Et tu sais que nous avons écumé le monde. Quant à Taïm.
Ce nom mit en feu la bouche d'Elaïda. Le seul faux dragon de l'histoire qui eut réussi à échapper à son sort, être apaisé, après avoir été entre les mains des Aes Sedai. Un événement qu'elle refusait de voir intégré dans les chroniques durant son règne. En tout cas, pas avant qu'elle ait décidé comment serait racontée cette lamentable histoire. Pour l'instant, les chroniques s'arrêtaient à la capture de Taïm. Elaïda caressa tendrement les écailles du poisson d'ivoire.
« Il est mort, Alviarin. Sinon, nous aurions entendu parler de lui depuis longtemps. Et de toute façon, il ne pourrait pas être au service d'Altor. Crois-tu qu'il aurait pu prétendre être le dragon réincarné, puis devenir ensuite le larbin de l'homme qu'il l'est pour de bon? Et imagines-tu qu'il pourrait être à Kaemlyn sans que Davram Bachéry ait au moins essayé de le tuer ?»
Elaïda caressa plus nerveusement le magnifique poisson. Pensait que le maréchal du Saldaïa était à Kaemlyn, prenant ses ordres d'Altor. À quel jeu jouait donc Tenobia? Bien entendu, la nervosité de la chair d'Amerlin ne transparut pas sur son visage, aussi figé que celui d'une de ses figurines.
Ce nombre, 24, est dangereux quand on le prononce à voix haute,
fit Alviarin avec un calme inquiétant.
Aussi dangereux que 2000. Les chroniques mentionnent seulement 16 hommes. Il serait peu opportun que certaines choses reviennent à la surface. Ou que des sœurs qui ne savent rien
à part ce qu'on leur a dit, découvrent soudain la vérité. Même celles que tu as rappelées se taisent. » Elaïda eut l'air perplexe. D'après ce qu'elle savait, Alviarine avait appris la vérité sur ses années depuis qu'elle occupait le poste de gardienne. Ses propres connaissances sur la période étaient plus directes, mais sa collaboratrice ne pouvait pas le savoir. Pas avec certitude, au moins.
« Ma fille, quoi qu'il puisse remonter à la surface, je n'ai rien à craindre. Qui m'infligerait une pénitence? Et sur la base de quelles accusations ?»
Une manière fort élégante d'esquiver le problème. Hélas, la manœuvre ne sembla pas impressionner Alviarine.
Les chroniques mentionnent plusieurs chairs d'Amerline qui durent se repentir publiquement pour des raisons le plus souvent obscures. Mais j'ai toujours pensé qu'une dirigeante ferait rédiger la chose de cette façon, si elle n'avait pas d'autre choix. À part...
Elaïda tapa du poing sur son bureau.
« Assez, ma fille! Je suis la loi de la tour. Ce qui était caché le restera, et ce pour la même raison que depuis 20 ans. Le bien de la tour !»
Elaïda sentit soudain une douleur dans sa paume. Ouvrant la main, elle dévoila le poisson d'ivoire brisé en deux. Quel âge avait-il donc? 500 ans? 1000? Si la chair d'Amerline parvint à ne pas trembler de colère, sa voix vibra dangereusement.
Tovain va conduire 50 sœurs et 200 gardes de la tour blanche à Kemlin, afin d'attaquer la tour noire. Tout homme capable de canaliser sera d'abord apaisé, puis pendu, comme tous les bons ariens qui seront capturés vivants.
Alviarine ne tressaillit même pas devant cette violation des lois de la tour. Elaïda venait d'être une précision sans équivoque. En cette matière, et dans toutes les autres, elle était la loi de la tour.
Tant qu'à faire, qu'on pende aussi les morts, qu'il soit un avertissement pour tout homme qui aurait l'idée de toucher la source authentique. Que Tovain vienne me voir. Je veux l'entendre exposer son plan.
À tes ordres, mère,
répondit Alviarine, imperturbable.
Puis-je cependant te conseiller d'y réfléchir à deux fois, avant d'envoyer tant de sœurs loin de la Tour Blanche? Il semble que les renégats aient jugé ta proposition insatisfaisante. Elles ne sont plus à Salidar. Selon un rapport, elles traversent l'Altara, mais elles doivent être au Mourandi à l'heure qu'il est. Et elles se sont choisies une chair d'Amerline.
Elle baissa les yeux sur ses documents, comme si elle cherchait un nom.
Egwene Alveré, dirait-on.
La gardienne avait gardé par devers elle l'information la plus importante, jusqu'à maintenant en tout cas. Alors qu'elle aurait dû être furieuse, Elaïda éclata de rire. N'eût été sa dignité, elle aurait volontiers tapé des pieds sur le sol. La stupéfaction d'Alviarine ne fit rien pour calmer son hilarité, des larmes lui montant aux yeux.
« Tu ne saisis pas la situation !»
dit la chair d'Amerline, quand elle put de nouveau parler.
« Heureusement que tu es la gardienne et pas une représentante. Au sein du hall, avec ta cécité naturelle, les autres n'auraient pas tardé à t'enfermer dans une armoire et à ne t'en sortir qu'au moment des scrutins.
Je saisis assez bien les choses, mère,
répondit Alviarine, toujours aussi sereinement glaciale.
300 sœurs renégates, voire davantage, marchent sur Tarvalon, avec une armée dirigée par Gareth Bryne, dont la réputation de grand guerrier n'est plus à faire. En écartant les rapports farfelus, cette force compte au moins 20 000 hommes. Et avec Gareth Bryne comme chef, les nouvelles recrues affluent dans chaque ville ou village traversé. Je ne dis pas que les rebelles ont une chance de conquérir notre cité, mais cette affaire n'a rien de risible. Le haut capitaine Choubane devrait recevoir l'ordre d'accélérer le recrutement de nouveaux gardes de la tour.
Elaïda baissa les yeux sur la figurine brisée. Puis elle se leva et alla se camper devant la plus proche fenêtre, le dos tourné à Alviarine. La vue du chantier chassa un goût amer dans sa bouche. Ça et le contact du message qu'elle tenait toujours. Elle sourit en étudiant ce qui serait bientôt son palais.
300 renégates, certes, mais tu devrais vraiment relire le rapport de Tarna. 100 d'entre elles sont sur le point de faire sécession.
Jusqu'à un certain point, Elaïda se fia à Tarna, une sœur rouge connue pour sa rigueur intellectuelle. Selon ses sœurs, les renégates commençaient à avoir peur de leur ombre. Des brebis désespérées en quête d'une bergère. Tarna était certes une naturelle, mais elle avait la tête bien calée sur les épaules. Bientôt de retour, elle pourrait fournir de vive voix un rapport plus complet. Non que ce fût indispensable, car les plans d'Elaïda étaient déjà en cours d'application parmi les renégates. Mais ça, c'était son secret.
Tarna a toujours cru qu'elle était capable de forcer les gens à faire ce qu'ils refusent à l'évidence d'accomplir.
Y avait-il un sous-entendu là-dedans? Quelque chose dans le ton, peut-être. Elaïda décida de ne pas relever. Pour l'instant, elle devait laisser passer bientôt de choses face à Alviarine. Mais ça changerait bientôt.
Quant à cette armée, ma fille, Tarna parle de 2 à 3 000 hommes, pas davantage. S'ils étaient plus nombreux, ils s'arrangeraient pour qu'on les voie.
histoire de nous angoisser. Selon Elaïda, les yeux et les oreilles exagéraient toujours, afin que leur renseignement semble précieux. Seules les sœurs étaient fiables. Les sœurs rouges, pour être plus précises. Enfin, certaines d'entre elles.
Mais s'il y avait 20 000 soldats, ou 30 000, voire 100 000, ça ne m'inquiéterait pas davantage. Commences-tu à comprendre pourquoi ?
Se retournant, Elaïda constata qu'Alvirine dissimulait son ignorance sous un masque de marbre.
« Tu sembles très experte dès qu'il s'agit des lois de la tour. Quelles sanctions risquent les renégates ? Être calmée, au moins pour les meneuses. »
Alvirine plissa le front, et sa robe ondula légèrement, prouvant qu'elle avait tressailli. Parfait. Même une acceptée connaissait le châtiment. La gardienne devait se demander pourquoi on venait de lui poser cette question. Excellent, vraiment.
Et pour un grand nombre de suiveuses aussi. Peut-être.
En fait, les meneuses elles-mêmes pouvaient échapper à ce sort, si elles faisaient acte de soumission de manière convaincante. Le châtiment minimal, selon la loi, était de subir le fouet devant toutes ses sœurs réunies, puis d'observer un an et un jour de repentir public. Mais rien ne disait que cette peine devait être purgée en un seul coup. Un mois par-ci, un autre par-là, et dans 10 ans, les traîtresses n'auraient pas fini d'expier leurs crimes. Une façon de leur rappeler ce qu'on risquait quand on se révoltait. Certaines sœurs seraient calmées, bien entendu. Shériam, par exemple, et quelques-unes des soi-disant représentantes, les plus en vue, évidemment. Juste ce qu'il faudrait pour dissuader à jamais les autres de s'écarter du droit chemin, sans risquer d'affaiblir la tour. Car la tour blanche devait être unie et forte. Sous la tutelle des Laïda, il n'était pas besoin de le préciser.
Parmi leurs crimes, un seul est passible de la peine la plus sévère.
Être calmé, pas perdre la vie. Alvirine en resta bouche bée. Par le passé, il y avait eu des rébellions si soigneusement occultées que fort peu de sœurs connaissaient leur existence. Sur ce sujet, les chroniques étaient muettes, les listes des femmes calmées et exécutées figurant dans des archives uniquement accessibles pour la chair d'Amerline, la gardienne et les représentantes, sans mentionner une poignée de bibliothécaires. Elaïda ne laissa pas l'occasion de parler à Alvirine.
« Toute femme qui s'arroge frauduleusement le titre de chair d'Amerline doit être calmée. Si les renégates pensaient avoir une chance de triompher, Shériam, Lélaine ou Carlinia auraient été nommées chair d'Amerline. »
Selon Tarna, Romanda Cassine était sortie de sa retraite. S'il avait cru à la victoire, une telle femme aurait tout fait pour s'emparer de l'étole.
« Mais elles ont choisi une acceptée !»
Elaïda eut un rictus ironique. Elle aurait pu citer, mot pour mot, la loi concernant la nomination d'une chair d'Amerline. Rien d'illogique, puisqu'elle en avait eu besoin très récemment. Dans ce texte, rien ne stipulait que la postulante doive obligatoirement être une Aes Sedai. C'était tellement évident, en fait, qu'on n'avait pas songé à le préciser. Et les renégates étaient engouffrés dans cette faille.
Alvirine, elles savent que c'est perdu d'avance. Shériam et les autres prévoient de fanfaronner un peu, puis de faire en sorte d'échapper à un châtiment sévère. Pour ça, elles nous livreront la pauvre idiote qui se prend pour leur chair d'Amerline.
Une situation regrettable. Pauvre idiote ou pas, Egwene Alvéré aurait pu être un autre atout pour contrôler Altor. Si elle avait pu développer tout son potentiel, elle aurait été une des sœurs les plus puissantes de ces 10 derniers siècles. Vraiment dommage ce gâchis.
Gareth Bryne à la tête d'une armée. Voilà qui n'a rien d'une fanfaronnade. Cette armée aura besoin de 5 ou 6 mois pour atteindre Tarvalon. D'ici là, Trubane aura enrôlé... Une armée ?
Répéta Elaïda, méprisante. Alvirine était si bête. Malgré sa froideur apparente, elle était aussi peureuse qu'un lapin. Encore un peu, et elle répéterait les idioties de Suan Sanche, sur les rejetés libérés de leur prison et arpentant le monde. Bien entendu, elle ignorait le grand secret, mais ça ne changeait rien.
Des fermiers armés de piques, des bouchers brandissant un arc, et des tailleurs sur des chevaux de labour. À chaque pas, ils pensent aux murs scintillants qui ont tenu en respect Arthur L. de Faucon en personne.
Un lapin, cette femme ? Non. Une fouine. Eh bien, tôt ou tard, le manteau d'Elaïda serait bordé de fourrure. La lumière fasse que ce soit tôt.
À chaque pas, cette armée perdra un homme, sinon 10. Je ne serais pas surprise que ces renégats arrivent ici avec leur seul champion.
Trop de gens étaient informés du schisme de la tour. Une fois la rébellion matée, on pourrait toujours prétendre qu'il s'était agi d'un stratagème, par exemple pour mieux contrôler le jeune Altor. Mais il faudrait des années d'efforts et des générations de sœurs pour que le souvenir s'efface. Toutes les renégates, jusqu'à la dernière, paieraient pour ça, à genoux dans la cour des traîtres. Elaïda serra le poing, comme si elle tenait chacune de ses femmes à la gorge. Ou Alvirine.
Je veux les briser, ma fille. Elles éclateront comme une pastèque trop mûre. »
Quel que soit le nombre de fermiers, de bouchers et de tailleurs qu'amènerait Brian, le secret d'Elaïda lui garantissait la victoire. Mais que la gardienne pense ce qu'elle voulait, après tout. Soudain, le don de prédiction s'empara d'Elaïda, lui insufflant d'inébranlables certitudes sur des événements qu'elle n'aurait pas vus plus clairement s'ils s'étaient déroulés devant ses yeux. Avec de telles assurances, elle aurait été disposée à sauter d'une falaise.
« La tour blanche sera de nouveau unie et entière, à l'exception de quelques réprouvés, jetés dans les oubliettes de l'histoire, unie et plus forte que jamais. Rand Altor affrontera la chair d'Amirlin, et il sentira le poids de sa colère. La tour noire sera rasée dans le feu et le sang, et des sœurs arpenteront ses ruines fumantes. Voilà ce que je prédis. »
Comme d'habitude, le don de prédiction, quand il abandonna Elaïda, la laissa tremblante et haletante. Au prix d'un effort surhumain, elle se ressaisit. Personne, jamais, ne devait la voir en état de faiblesse. Et surtout pas Alviarin. Les yeux ronds, les lèvres entrouvertes comme si elle avait oublié ce qu'elle voulait dire, la gardienne était stupéfiée. Une feuille glissa de sa liasse et faillit toucher le sol avant qu'elle l'ait rattrapée. Cet incident la ramena au présent. En un instant, elle reprit son masque d'Aes Sedai. Mais elle venait d'encaisser un rude choc. Parfait. Qu'elle rumine donc, au sujet de l'inévitable victoire de Laïda. Oui, qu'elle rumine jusqu'à s'en briser les dents. Après avoir inspiré à fond, la chair d'Amerline s'assit à sa table de travail et posa la figurine brisée à l'écart, là où elle ne serait pas obligée de la voir à tout instant. Le moment était venu de cueillir les fruits de sa victoire.
« Nous avons du pain sur la planche, ma fille. Le premier message sera adressé à Dame Caroline d'Amodred. »
Et Laïda exposa une partie de ses plans, approfondissant certaines connaissances d'Alviarine et la gratifiant de quelques révélations. Autant qu'elle détesta sa gardienne, une chair d'Amerline était obligée de travailler avec elle. De plus, voir Alviarine écarquiller les yeux, s'inquiétant, à l'évidence, de tout ce qui lui restait à découvrir, se révéla plutôt agréable. Tandis qu'elle réorganisait et partageait les terres comprises entre l'océan d'Arit et la colonne vertébrale du monde, Elaïda ne put s'empêcher de penser au jeune Altor. En cage comme un ours, il avançait vers elle. Bientôt, il apprendrait à danser devant sa maîtresse pour obtenir sa pitance. Les chroniques pourraient difficilement rendre compte des années précédant l'ultime bataille, sans mentionner le dragon réincarné. Mais un nom, Elaïda le savait, serait écrit en lettres plus grandes que toutes les autres. Le sien. Elaïda do Avrini a Royhan, la plus jeune fille d'une maison mineure au nord du Murandi, entrerait dans l'histoire comme la plus grande et la plus puissante chair d'Amerline de tous les temps. La femme la plus importante de l'histoire. Celle qui aurait sauvé l'humanité. Insensible à la poussière propulsée dans les airs par les bourrasques, les aïels cachés dans un ravin, au cœur d'une succession de collines moutonnantes, ressemblaient à des statues de marbre. À ce moment de l'année, le sol aurait dû être couvert de neige, mais ça ne les perturbait pas le moins du monde. Aucun d'eux n'avait jamais vu l'ombre d'un flocon, et la chaleur accablante, alors que le soleil était encore loin de son zénith, n'était rien à côté de celle de leur désert natal. Leur attention rivée sur le flanc d'une colline, au sud de leur position, ils attendaient le signal annonçant que la destinée des Chaïdo était sur le point de s'accomplir. Extérieurement, Sevana ressemblait à tous ses compagnons. N'était le cercle de promise de la lance, leur voile noire déjà levée, qui l'entourait. Elle aussi attendait, et avec plus d'impatience qu'elle en laissait paraître, même si elle n'était pas entièrement concentrée sur cette seule préoccupation. C'était en partie à cause de cette aptitude qu'elle commandait, les autres lui obéissant, et parce qu'elle était capable de voir ce qui pouvait arriver quand on refusait de se laisser lier les mains par des coutumes dépassées et des traditions obsolètes. Sevana tourna très légèrement ses yeux verts sur la gauche, où se trouvaient 12 hommes et une femme. Tous équipés d'une ronde hache et de 3 ou 4 lances, ils portaient le cadinsor ocre, qui leur permettait de se fondre aussi bien dans le décor ici qu'au cœur de la tierce terre. Ses courts cheveux grisonnants cachés par le choufa qui enveloppait son crâne, Ephaline regardait de temps en temps en direction de Sevana. Si on pouvait dire qu'une promise était mal à l'aise, eh bien, c'était le cas d'Ephaline. Plusieurs promises Chaïdo étaient parties au sud, pour se joindre aux imbéciles qui s'agitaient comme des oies autour de Rand Altor. D'autres envisageaient cette possibilité, c'était évident. Du coup, Ephaline devait se demander si fournir une escorte de promises à Sevana, comme si elle avait été jadis une farde à Rismaï, suffirait à compenser ses désertions. Au moins, cette femme savait où se trouvait le véritable pouvoir. Comme Éphaline, qui dirigeait les promises, chacun des 12 hommes était à la tête d'un ordre de guerriers. De temps en temps, ils se jetaient des regards noirs, surtout Maéric, le chef trapu des Seyadoun, et Benduin, le balafré, qui commandait les phares Aldazardin. Après ce qui allait se passer aujourd'hui, plus rien n'empêcherait les Shaido d'envoyer un homme à Rudéan. S'il survivait, il leur reviendrait avec les marques qui feraient de lui un chef de tribu. Jusque-là, Sevana continuerait à diriger les Shaido. Rien de plus normal, puisqu'elle était la veuve du dernier chef en date. Des deux derniers même. Et ceux qui murmuraient qu'elle portait malheur pouvaient bien s'étouffer avec leurs propos fielleux, si ça leur chantait. Les bracelets d'or et d'ivoire de Layel cliquetèrent lorsqu'elle ajusta son châle sombre sur ses épaules et ses bras, puis rectifia la position de ses colliers. La plupart étaient en or et en ivoire, eux aussi. À l'exception d'une très belle pièce ornée de perles et de rubis, le plus gros, de la taille d'un œuf de poule, venait se nicher entre les seins de Sevana, qui avait appartenu à une noble dame des terres mouillées. Cette dame, désormais vêtue d'une robe blanche, s'affairait en compagnie d'autres Gaïshain dans la chaîne de montagnes appelée la Dague de Fléau de sa lignée. Les terres mouillées regorgeaient de butin. À un doigt de Layel, une énorme émeraude reflétait le soleil en un éclair de feu vert. L'habitude de porter des bagues était une coutume des terres mouillées digne d'être adoptée, et tant pis pour les regards désapprobateurs que ça valait à Sevana. Si elle trouvait d'autres anneaux de cette beauté, elle ne se priverait pas de les porter. La majorité des guerriers pensaient que le premier homme autorisé à aller à Rudéan par les matriarches serait Maéric ou Benduin. Dans le petit groupe proche de Sevana, seule Éphaline soupçonnait que ce ne serait pas le cas. Soupçonnait seulement. Très maligne, elle s'était contentée de confier ses doutes à Sevana, avec circonspection, et à personne d'autre. Les Aiel avaient du mal à concevoir qu'on puisse tourner le dos aux traditions, en d'autres termes, à renoncer à tout ce qui était ancien. Impatiente d'adopter ce qui était nouveau, Sevana avait conscience qu'il ne fallait rien brusquer. Tant de choses avaient changé depuis que les Shaido avaient traversé le mur du dragon pour entrer dans les terres mouillées. Malgré la sécheresse, un nom qu'elle méritait toujours, comparé au désert des Aiel. Et le processus n'était pas près de s'achever. Lorsque Randaltor serait entre les mains de Sevana, quand elle aurait épousé le Karakarn, parmi les Aiel, le chef de tous les chefs, le dragon réincarné, n'étant qu'une absurdité inventée par les habitants de Terre Mouillée, la manière de nommer les chefs de tribus et de clans changerait elle aussi. Et cette réforme toucherait peut-être également les dirigeants des ordres de guerriers. Randaltor choisirait les chefs, tout simplement. En suivant les suggestions de son épouse, bien entendu. Et ce serait seulement le début des bouleversements. Bien d'autres suivraient, par exemple, l'adoption de la transmission héréditaire des titres en vigueur dans les terres mouillées. Soufflant du sud, le vent devint momentanément plus fort. Voilà qui couvrirait le bruit des sabots et les grincements de roues de la caravane des terres mouillées. Sevana tira sur son châle et parvint de justesse à ne pas grimacer. Coûte que coûte, elle devait dissimuler sa nervosité. Un coup d'œil sur sa droite l'apaisa aussitôt. Plus de 200 matriarches étaient massés là. En temps normal, plusieurs d'entre elles l'auraient regardé avec l'intensité d'oiseaux de proie, mais toutes se concentraient sur la colline d'en face. Quelques-unes tiraient nerveusement sur leurs châles, et d'autres lissaient le devant de leurs lourdes jupes. Sevana eut un rictus méprisant. De la sueur ruisselait sur le visage de certaines femmes. De la sueur! Où était leur honneur pour qu'elles exhibent ainsi leur anxiété? Tout le monde sursauta un peu lorsqu'un jeune Sauvinnai apparut en haut du ravin, puis abaissa son voile et entreprit de dévaler la pente. Comme il convenait, le guerrier se dirigea tout droit vers Sevana. Mais il parla assez fort pour que tout le monde entende, un comportement fort irritant.
Un des éclaireurs ennemis s'est échappé. Bien que blessé, il tenait encore sur sa selle.
Les chefs des ordres de guerriers se mirent en mouvement avant que le messager ait terminé sa deuxième phrase. Pas question que les choses se passent ainsi. Sur le champ de bataille, il prendrait les opérations en main. De sa vie, Sevana avait dû tenir une lance une fois ou deux, et encore. Mais elle n'entendait pas les laisser oublier qui elle était.
« Lançons tous les guerriers à l'attaque !»
ordonna-t-elle.
« Avant que nos ennemis aient eu le temps de se préparer !»
Les chefs se tournèrent vers Sevana avec un bel ensemble.
« Tous les guerriers ?»
demanda Benduin, incrédule.
« À part les réserves, tu veux dire ?»
Furieux, Maéric enchaîna aussitôt.
« Si nous ne gardons pas de force en réserve, nous risquons de... »«
Tous les guerriers, j'ai dit !»
coupa Sevana.
« Nous allons affronter les Aes Sedai. Il faut les submerger dès le début. »
Éphaline et presque tous les autres hommes affichèrent un masque d'impassibilité. Mais Benduin et Maéric ne désarmèrent pas, prêts à discuter ferme. Les crétins. Il faisait face à une poignée d'Aes Sedai et à quelques centaines de soldats des Terres Mouillées. Disposant de 40 000 guerriers, comme il l'avait exigé, ils envisageaient de conserver quand même des corps d'éclaireurs et des renforts, comme s'ils combattaient d'autres Aiel ou une armée entière des Terres Mouillées.
« Ma parole est celle du chef des Shaido !»
Un rappel qui aurait dû être inutile, mais qui ne pouvait pas faire de mal.
« Nos ennemis sont ridiculement peu nombreux. Ils seront balayés par un assaut massif et rapide. Vous parliez tous de venger Desaïn ce matin. Est-ce de la peur que je sens en vous, face à quelques misérables adversaires? Les Shaido auraient-ils perdu leur honneur ?»
Comme prévu, cette remarque étouffa toute contestation. Et Faline elle-même leva son voile sur un visage devenu aussi inexpressif que de la pierre. Alors que les chefs gravissaient la pente, elle recourut au langage par geste, et les promises qui entouraient Sevana suivirent le mouvement. Ça, ce n'était pas prévu au programme, mais au moins, les guerriers attaquaient. Même de sa position au fond du ravin, Sevana voyait des silhouettes qui semblaient surgir de la terre se précipiter vers le sud, à la vitesse qui leur permettait de distancer des chevaux le cas échéant. Il n'y avait pas de temps à perdre. Après avoir noté qu'il lui faudrait parler à Ephaline plus tard, Sevana se tourna vers les matriarches. Sélectionnées parmi les plus puissantes matriarches Shaido capables de canaliser le pouvoir, elles allaient combattre, à 6 ou 7 contre une, les Aes Sedai qui détenaient Altor. Malgré cet avantage numérique, Sevana lut du doute sur les visages de ces femmes. Elle tentait de le dissimuler derrière un masque impassible, mais certains détails ne trompaient pas, tels que des yeux fuyants ou une langue nerveusement passée sur des lèvres trop sèches. En ce jour, beaucoup de traditions allaient mourir. Des coutumes antiques qui avaient jusque-là force de loi. En principe, les matriarches ne participaient pas aux batailles, et elles se tenaient le plus loin possible des Aes Sedai. Ces femmes connaissaient les anciens récits, selon lesquels les Aiel avaient été exilés dans la tierce terre pour avoir mal servi les Aes Sedai. S'ils recommençaient, annonçaient ces textes, ils seraient détruits. Les matriarches avaient aussi entendu ce que Rand Altor avait clamé devant tous les Aiel. En ces temps reculés, afin de mieux servir les Aes Sedai, leurs ancêtres avaient juré de ne jamais recourir à la violence. D'abord sûr que ces histoires étaient fausses, Sevana était à présent convaincue que les matriarches leur accordaient un grand crédit. Aucune ne l'en avait informée, bien sûr, mais ça n'avait aucune importance. Alors qu'elle n'avait jamais fait les 2 voyages jusqu'à Ruidéan requis pour devenir une matriarche, les autres l'avaient acceptée parmi elles, même si c'était parfois de mauvaise grâce. À présent, elle ne pouvait plus revenir en arrière. Des traditions obsolètes allaient être balayées et remplacées par d'excitantes nouveautés.
« Les Aes Sedai !»
souffla Sevana. Dans un concert de cliquetis de bracelets et de colliers, les matriarches se penchèrent en avant pour mieux entendre.
« Les Aes Sedai détiennent notre Karakarn, et nous devons le leur reprendre. »
Quelques femmes froncèrent les sourcils. Parmi les matriarches, beaucoup pensaient que Sevana voulait avoir le Karakarn vivant afin de venger la mort de Kuladin, son 2e mari. Elle comprenait ce sentiment, mais ne serait pas venue jusqu'ici rien que pour ça.
« Les Aes Sedai, nous avons une parole, mais pas elle. Nous avons été loyales, alors qu'elles n'ont rien respecté. Vous savez comment Desaïn a été assassiné ?»
Bien sûr qu'elle le savait. Les regards rivés sur Sevana se firent plus durs. Tuer une matriarche était équivalent à ôter la vie d'une femme enceinte, un enfant ou un forgeron. Certains regards étaient plus durs que d'autres. Celui de Tevara, de Rial et d'autres encore.
« Si nous permettons à ces femmes de s'en sortir sans encombre, nous ne serons que des animaux. Moins que ça même, puisque nous n'aurons plus d'honneur. Moi, je tiens à mon honneur !»
Sur ces mots, Sevana releva dignement l'ourlet de sa jupe et entreprit de gravir la pente, la tête haute et sans jeter un regard en arrière. Les autres la suivraient. Elle n'en doutait pas un instant. Tevara, Norlea et Dailin s'en assureraient, ainsi que Rial, Tion, Meira et toutes les autres qui étaient venues avec elle quelques jours plus tôt voir Rand Altor être battu comme plâtre par les Aes Sedai avant de devoir réintégrer son coffre. L'allusion à Desaïn était destinée à ces 13 femmes bien plus qu'aux autres, et ça les dissuaderait de la trahir. La vérité sur la mort de Desaïn serait le ciment de leur loyauté. Des matriarches contraintes de soulever leurs jupes pour avancer n'avaient aucune chance de soutenir le rythme de guerriers en cas d'insort, même en courant à toutes jambes. Lorsqu'elles eurent parcouru 2 lieues, passant de colline en colline, une assez courte distance, elles déboulèrent sur une crête et découvrirent que la danse avec les lances avait déjà commencé. En un sens. Des milliers d'algaïdes sissouailles voilées entouraient des chariots disposés en cercle autour d'un des rares bosquets qu'on trouvait de ci de là dans la région. Devant ce spectacle, Sevana frémit de colère. Les Aes Sedai avaient eu assez de temps pour regrouper tous leurs chevaux à l'intérieur du bosquet. Les guerriers avaient encerclé les chariots et ils les criblaient de flèches. Mais la première ligne semblait être repoussée par un mur invisible. Alors qu'elle paraissait pouvoir passer au-dessus de cet obstacle, les flèches aussi commencèrent à rebondir contre une barrière tout aussi invisible. Des murmures coururent dans les rangs de matriarches.
« Vous voyez ce que font les Aes Sedai ?»
demanda Sevana, comme si elle était elle aussi capable de voir les sortisser le pouvoir de l'unique. Elle réprima un ricanement. Avec leurs fameux trois serments, les Aes Sedai étaient un ramassis de crétines. Quand elle déciderait enfin d'utiliser le pouvoir comme une arme, pas comme une sorte de fortification, il serait trop tard pour elle. À condition que les matriarches ne continuent pas à contempler le spectacle. Dans un de ces chariots, Randall Thor devait être plié en deux dans son coffre comme une longueur de soie, attendant que Sevana vienne le cueillir. Et si les Aes Sedai pouvaient le contrôler, elle en serait capable avec l'aide des matriarches. Et d'une promesse.
Tevara, conduis la moitié des matriarches vers l'ouest. Soyez prête à frapper dès que je passerai à l'action. Pour Desain, et au nom du Tau que nous doivent les Aes Sedai, nous leur ferons sentir le poids de l'honneur comme personne avant nous n'y est parvenu.
Prétendre imposer à des gens une obligation qu'ils n'avaient jamais assumée était une pure vantardise. Pourtant, dans les vociférations de femmes qui l'accompagnaient, Sevana entendit des serments solennels au sujet du Tau et des Aes Sedai. Seules les femmes qui avaient tué Desain sur son ordre gardaient un silence prudent. Tevara plissa même les lèvres avant de lâcher.
Nous t'obéirons, Sevana.
D'un pas vif et souple, la veuve de Kouladin guida l'autre moitié des matriarches vers la zone est du champ de bataille, si on pouvait qualifier ainsi le site d'un très étrange affrontement. Sevana aurait préféré rester sur la crête d'une colline, d'où elle aurait tout vu. C'était ainsi que les chefs de tribu chorégraphiaient de loin la danse avec les lances. Mais sur ce point, elle n'avait obtenu aucun soutien, même auprès de Tevara et des autres complices de l'assassinat de Desain. Avec leurs chemisiers blancs en algode, leurs jupes de laine, leurs châles sombres, leurs bracelets, leurs colliers et leurs longs cheveux tenus par un foulard, les matriarches se distinguaient très nettement des guerriers en tenue ocre. Même si elles avaient décidé d'être au cœur de l'action en cas de bataille, et non sur une hauteur, ces femmes n'avaient pas conscience, Sevana en aurait mis sa tête à couper, que ce serait à elles, en ce jour, de livrer le vrai combat.